Philippiens au premier chapitre. On l'a lu déjà au complet, donc on a une bonne idée de c'est quoi. Des fois, ça nous rafraîchit, on connaît, mais ça nous rafraîchit la mémoire sur un passage qui, je suis sûr, vous est tous quand même familier. Là, on va juste lire deux versets pour s'introduire. On va en lire plusieurs à travers le message, toujours dans Philippiens 1. Donc, on peut lire au verset 20 et 21, Philippiens 1, 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Seigneur, tous tes enfants ici peuvent dire en esprit et en vérité que Christ est leur vie. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on s'identifie à ça? Est-ce que c'est notre ferme assurance? Est-ce que nous vivons notre identité en Christ? Et c'est vraiment ce sur quoi on veut s'arrêter ce matin. Et c'est toi, notre enseignant, c'est toi qui convainc, c'est toi qui ouvre les yeux, c'est toi qui réconforte, c'est... Tout est de toi, par toi et pour toi, Seigneur. Donc, on s'en remet complètement entre tes mains. On dépend de toi. Et on met tout le poids de notre confiance, de notre dépendance sur toi, notre Dieu. Et je prie que s'il y en a qui ne te connaissent pas comme leur sauveur, qui mettent toute leur confiance en Jésus seul, son œuvre parfaite sur la croix, avec les vérités qu'on va voir aujourd'hui, qu'ils puissent y croire pour eux-mêmes, pour le salut de leur âme. Seigneur, en tout point, on t'invoque. On s'en remet à toi, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ici, dans le contexte, c'est avec tout un contexte, un arrière-plan de beaucoup d'épreuves et de souffrances que Paul s'exprime ainsi. Il parle même de mort, parce que c'était pas juste une hyperbole. Il pouvait arriver jusqu'à la mort dans ce qu'il vivait, dans ce qu'il, les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Puis, évidemment, sa confiance était dans le Seigneur, qui vive, qui meurt, sa foi ne changeait pas, parce que Dieu ne change pas et sa foi est en Dieu. Bien, de la même façon, pour ma part, et je pense pour beaucoup ici, c'est avec, après beaucoup d'épreuves et de souffrances, que le Seigneur nous a fait comprendre les vérités de notre identité en Jésus-Christ. C'est le thème du mois de mars. Notre nouvelle identité, c'est ce qu'on considère ensemble. Et je commence en vous donnant une simple illustration. Vous savez, si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Hein? Comme dans l'histoire de l'humanité, mais dans votre histoire à vous, il y a un avant Jésus, puis après, c'est ça le salut. Avant, puis après, on l'a vu tantôt, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, l'avant, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et... je me rappelle que, en grandissant, tu sais, dans ma petite vie normale, là, d'un petit gars de Sainte-Foy, j'ai grandi en prenant, dans le fond, mon identité dans mon milieu social, d'où est-ce que j'étais. Et ça, avant de connaître le Seigneur, j'ai jamais été, on pourrait dire, mainstream. J'ai jamais été vraiment toute tendance. C'était plutôt marginal. Peut-être qu'ici, c'est comme ça que vous étiez au secondaire, là, un peu marginal. Mais même si j'étais marginal, je me conformais au modèle marginal. Comprenez-vous? Tu sais, je disais que j'étais pas comme les autres, mais j'étais comme ceux-là qui n'étaient pas comme les autres. C'était mon identité. Puis là, je suis devenu chrétien. Donc après Jésus-Christ, quand je suis devenu chrétien, ben tout le concept de mon identité, là, je le prenais plus dans le monde, mais je l'ai pris dans mon milieu chrétien. Donc, j'étais un chrétien comme on s'attend d'être un bon chrétien dans le milieu chrétien dans lequel je suis tombé. Ben oui, un peu quand même tombé. Ça faisait que être un bon chrétien, ça voulait dire ça, ça, ça. Ça, c'était mon identité. Je suis un bon chrétien parce que je fais ci ou je fais pas ça, OK? Donc, c'était Jésus, mais Jésus plus, pas Jésus seul. Et je dirais... que c'est selon, comment ça dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisait par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est simple, notre identité, c'est ce que Dieu a fait de nous autres. Mais bon, j'ai tombé dans ce piège. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande fidélité, m'a libéré de l'emprise, de l'esclavage, du mensonge de cette fausse identité. Une identité qui vient selon ce que je pouvais faire ou ne pas faire, et qu'on peut dire une identité qui était basée sur la crainte des hommes et non de Dieu. Donc, me placer sous les hommes au lieu de me placer sous Dieu, c'est la différence entre la crainte des hommes et la crainte de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, oui, m'a délivré à travers toutes ces choses-là et m'a amené à pouvoir commencer à vivre, c'est quoi? Vivre mon identité en Jésus. Et c'est quoi pour chacun ici, des enfants de Dieu qui m'écoutent? Vivre notre identité en Jésus, c'est le titre du message, c'est laisser Dieu nous définir selon ce que lui dit de nous autres. Ce que lui dit de ce qu'il a fait de nous autres, de ce qu'il a fait avec nous, pour nous, en Jésus-Christ, par la croix, par la résurrection. Et non pas ce que le regard inquisiteur ou accusateur, les paroles accusatrices des autres peuvent nous dire. Pas qu'on se fie des autres, qu'on se fout des autres, pardon, mais on ne se fie pas là-dessus pour nous définir. Et est-ce que vous vous rappelez le message que j'ai prêché sur la marche par l'esprit illustré avec le ski de fond? Là-dedans, je disais que c'est comme tout le temps un peu un recommencement. La dépendance est toujours à renouveler. On n'arrive jamais au point d'autosuffisance. Ben c'est vrai pour notre identité. Tu sais, c'est vrai pour notre marche avec Dieu, dépendre de lui. Mais notre identité est toujours à réaffirmer, à se réapproprier. Parce que lorsque on se reconnaît, on accepte, on vit selon le fait de ce que Dieu a fait de nous autres, ou qu'on dit avec Paul, Christ est notre vie, ben c'est une réalité qui est là, qu'on le croit ou non, mais se l'approprier, il faut qu'on se le rappelle à tous les jours. Et c'est tellement important, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et ça vient du fait qu'on dépend de lui, on dépend de Dieu pour nous définir. Parce que des fois, il nous arrive des choses. Des fois, il y a des relations qui ne vont pas bien. Il y a des échecs qui nous arrivent. Il y a des critiques qu'on peut entendre. Des luttes avec lesquelles on est aux prises. Des ambitions qu'on a. Toutes ces choses ne devraient pas nous définir. Ces choses sont circonstancielles, sont changeantes. Et se laisser définir par ces choses, c'est la définition même de la mondanité et de l'égocentrisme, parce que ces choses viennent du monde, viennent de la chair et viennent de Satan. Se laisser définir, parce que le monde veut nous définir par ça, hein? Le monde veut nous définir par notre performance, par ce qu'on fait, par ce qu'on fait pas, parce qu'on a de l'air, parce qu'on devrait être, ok? Alors que Dieu nous dit non, non, moi je t'ai redéfini, je t'ai donné une identité, puis c'est ce que j'ai fait de toi, tu es un enfant de Dieu. T'es accepté, t'es aimé. C'est ce que moi, j'ai fait de toi qui te donne ton identité. Et non pas ce que toi, t'as pu faire, ce que le monde a pu dire de toi, ou peu importe, OK? Donc, Dieu, le monde nous définit par rapport à nous-mêmes, ce qu'on est, ce qu'on devrait être, et toute l'équipe. Mais Dieu nous définit par rapport à lui-même, ce que lui a fait de nous autres. Et il y a rien de plus important. C'est un vote à l'unanimité, sans contestation.
Amen.
Parce que c'est Dieu qui a décidé. Et donc, c'est seulement en vivant comme ça notre identité en Jésus-Christ, selon ce que Dieu a fait de nous autres en nous sauvant, si vous êtes ici et vous êtes un enfant de Dieu, c'est seulement de cette manière-là que vraiment on peut s'épanouir, se réjouir, vivre une vie victorieuse. L'identité, c'est la clé pour la victoire. Parce que Dieu nous a donné une identité en Jésus-Christ afin que son identité soit proclamée par nous et à travers nous. Dieu a fait de nous ce qu'on est, là, afin qu'on fasse connaître qui lui, il est. Donc, quand je vis des choses, là, c'est pas moi le centre d'attention, c'est pas moi le plus important, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui veut se manifester. Il dit, hey, tasse-toi du chemin, là. C'est pas toi que je veux mettre de l'avant, là. C'est moi. C'est ça la question de l'identité. Donc, là, si j'ai des luttes, j'ai de la misère, c'est bon, comment ça va virer pour moi? Non, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que lui veut faire pour lui? Voyez-vous comment ça enlève complètement toutes le focus, ça change complètement la façon de voir les choses. Puis d'ailleurs, là-dessus, si vous avez de la misère à me croire, bien, je vais vous convaincre avec une couple de versets. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, c'est pas moi, OK? Il y a pas beaucoup de moi là, dans ce verset-là. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Écoutez aussi, 1 Colossiens, au chapitre 1, ça dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Puis écoutez aussi Hébreux chapitre 2 verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, le but de notre vie, ce n'est pas nous-mêmes. Le but de notre vie, ce n'est pas centré sur nous, mais sur Dieu, puisque lui fait de nous autres, a fait de nous autres, puis où est-ce qu'il s'en va avec tout ça? Et comme je l'ai montré dans mon illustration de départ, on va voir que pour comprendre notre identité en Jésus-Christ, on peut le comprendre avec « OK, ce que Dieu a fait de nous », mais souvent on comprend par contraste. Donc, on va voir des contrastes, quatre comparaisons qui nous aident à comprendre notre identité en Jésus-Christ avec des choses qui ne sont pas notre identité. Donc, souvent, quand on voit ce que ça ne devrait pas être, ça nous aide à comprendre ce que ça devrait être. Donc, on va regarder la contrefaçon pour découvrir l'authentique. Donc, quatre comparaisons qui nous aident à comprendre notre identité en Jésus. D'abord, dans les versets 6 et 7, on voit que notre identité, elle est reçue et non pas acquise. Acquise, ça veut dire, tu as fait ça, donc tu es comme ça. Reçu, ça veut dire, je t'ai donné une identité. Regardez le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Donc, ces versets nous montrent que notre identité, elle est reçue et elle n'est pas acquise. Pourquoi? Parce que c'est par grâce. Et la grâce, c'est pas acquis. La grâce est reçue. C'est non mérité. Et c'est Dieu qui a commencé cette œuvre de grâce, hein? Celui qui a commencé en vous. Puis d'ailleurs, là-dessus, ça nous dit dans 1 Jean, pour nous, nous l'aimons. Parce qu'on est donc bien fin et on est donc bien bon. Non, parce qu'il nous a aimé le premier. 1 Jean 4, 19. Puis c'est lui aussi qui continue cette œuvre. Hein, si on vit encore dans cette chair, on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Puis c'est lui qui va achever aussi cette œuvre. Paul le dit dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera. Sauver dans le sens de délivrer, là. Il était déjà sauvé, là, Paul. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est Dieu qui, du début à la fin, nous a donné une identité, a fait de nous ce que nous sommes. Et c'est tout par grâce. Et même souffrir, c'est une grâce. C'est sorti dans le temps de prière. Ça dit au verset 29. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, ok, c'est ce qu'on vient de parler, là, notre salut, mais en plus, dans la vie chrétienne, c'est une grâce de souffrir pour lui. Pensez-y, c'est quoi les plus beaux moments de votre vie chrétienne? Souvent, on peut dire, ben oui, quand ça allait tellement pas, les premiers mois, premières années de mon mariage, quand on a eu les enfants au début, tu sais, tout nouveau, tout bon, là, des choses nouvelles, oui, ok, on peut dire, c'est pas pire. Mais en même temps, c'est quand que vraiment on a vu Christ se former en nous, peut-être ça. Souvent, c'est quand on est dans l'épreuve, puis étiré, puis au bout complètement de nos ressources, puis que Dieu a manifesté sa grâce d'une façon qu'on n'aurait jamais découvert si on n'avait pas passé par cette souffrance. N'est-ce pas? Puis je pense que même comme Église, c'est ce qu'on a vécu dans les 3 dernières années. On a découvert Dieu à travers la souffrance. Et donc, c'est bon, c'est une grâce de souffrir. Et ça, pourquoi? Parce que ça nous fait grandir, ça nous donne de l'assurance dans notre identité, dans notre appartenance au Seigneur, face au combat de la vie chrétienne. Hein, le combat avec nos 3 ennemis, le monde, la chair, le diable. Qui, le monde, la chair, le diable, hein, c'est quoi qu'ils veulent eux autres? Ils veulent nous donner notre identité dans notre performance, dans notre apparence, dans notre statut. Dans nos possessions, c'est tous des vanités. Comme on dit en bon québécois, ça n'a tout pas rapport. Ça n'a pas rapport. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour nous, est basé sur aucune de ces choses. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est beau, parce qu'on est fin, parce qu'on est intelligent. En fait, Dieu nous aime en dépit de nous-mêmes. Puis en fait, on l'a vu, c'est quand c'était la semaine passée qu'on voyait que Dieu a choisi les choses viles, les choses faibles. Il prend du monde tout scrap, puis il aime ça se glorifier en montrant sa grâce dans des gens comme ça. Donc, l'amour de Dieu n'est basé que sur son choix. Lui, il a décidé de nous aimer. Ne m'en est pas bon pour m'expliquer tout ça en long puis en large, mais moi, c'est suffisant. Waouh, Dieu m'a aimé le premier. Merci Seigneur, c'est merveilleux. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand on est solide et assuré de l'amour de Dieu, ça nous donne une assurance devant lui. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle que notre identité, elle n'est pas acquise selon ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Je suis sur la corde de raide de savoir est-ce que Dieu m'aime ou il ne m'aime pas. Non. C'est reçu. Dieu m'a donné cet amour, m'a donné cette identité parce que tout est par grâce. Et donc, lorsqu'on est ancré dans cette conviction, ça va avoir un impact direct sur la prochaine comparaison qu'on va voir ensemble dans les versets 8 à 11. Notre identité, non seulement elle est reçue, mais elle n'est pas acquise, mais deuxièmement, notre identité nous pousse à vivre pour Dieu et pour autrui, et non pas pour nous-mêmes. Regardez les versets 8 à 11. Au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » On voit, puis c'est pas juste avec ça, on voit aussi dans le reste du passage comment Paul, au lieu de s'apitoyer, au lieu d'être centré sur lui-même, lui qui avait de la misère, qui souffrait à cause de Christ, était en prison quand il écrivait ceci, on le voit comment il est tourné vers Dieu et vers les autres, vers son œuvre, l'œuvre de Dieu dans les autres. Pourquoi? Parce que Dieu l'a délivré de lui-même. Dieu l'a délivré de lui-même. C'est pour ça qu'il dit, il y avait une pleine assurance que c'est... Face à la vie ou face à la mort, peu importe, parce que Christ était sa vie. Dieu l'a délivré. Je vous donne une couple de versets dans ce sens-là qui viennent de l'apôtre Paul, qui nous montre comment, comme ça, il était tourné vers Dieu et les autres et non pas sur lui-même. On lit dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est Paul qui dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Écoutez ici 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Ce n'est pas nous le boss de notre vie. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est-à-dire, on était un esclave sur le marché des esclaves du péché. Puis Dieu nous a rachetés à un grand prix son propre sang. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Et finalement, Romains 14, 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Puis, on le voit même ici dans notre texte, quand Paul dit au verset 23, « Je suis pressé des deux côtés, car j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur, hein, c'est sûr, de la félicité éternelle versus la vie sur cette terre. » Mais, verset 24, « À cause de vous, voyez-vous comment encore on le voit tourner vers les autres, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc, notre identité nous pousse à vivre pour Dieu et pour les autres, et non pas pour nous-mêmes. C'est soit que nous sommes poussés par Dieu à vivre pour Dieu, ou poussés par le monde, la chair et le diable, à vivre pour nous-mêmes. Mais plus nous sommes poussés par Dieu par rapport à ce qui nous définit, plus on laisse Dieu nous définir ce que nous sommes, c'est quoi le sens de notre vie, c'est quoi le but de notre vie, plus on est solide face aux aléas de la vie, les hauts et les bas. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus affecté par ça. Parce que c'est pas ce qui nous arrive, ce qui pourrait arriver, ce qui est arrivé, qui nous définit, qui nous qui nous dérange, mais c'est Dieu. Par exemple, donnez un exemple concret. On peut être accablé des fois par un échec ou par une faiblesse dans notre chair qu'on a donc de la misère avec. Puis des fois, ça peut être l'inverse. On peut s'enfler d'orgueil par rapport à des succès, des choses dans lesquelles on est naturellement bon. Ou on peut encore sombrer dans le désespoir lorsque la tragédie frappe. Puis que nos attentes sont déçues, sont anéanties. Tout ça, c'est des façons de penser qui sont centrées sur nous autres. Mais lorsque Dieu est celui qui nous donne notre identité, que nos pensées, notre but, nos motivations sont en lui, ça change complètement toutes les choses. On va être frappé par, on peut être accablé par le même échec, on peut être frappé par les mêmes faiblesses, mais on n'a plus la même réponse. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est pas ce que moi je veux, c'est pas ce que moi, où est-ce que je voulais aller avec ça, c'est ce que Dieu est en train de faire avec ça. Donc, c'est pas un échec, c'est une opportunité de découvrir Dieu. C'est pas une faiblesse, c'est une façon pour que sa grâce se manifeste. Et c'est pas une ambition, c'est quelque chose que Dieu veut briser pour que son plan s'accomplisse. Voyez-vous, ça change complètement tout. Ça redéfinit toute la façon que je vois les choses. Lorsque je suis solide sur mon identité en Christ, ça change absolument toute ma façon de voir ma vie. Et ainsi, je suis réellement libre. Et les autres aussi vont pouvoir en bénéficier. Ils vont pouvoir jouir du fruit du fait que je vis, non pas pour moi-même, mais pour celui qui m'a racheté. Et ça, c'est pas mal différent qu'une vie d'égocentrisme. Et c'est pas mal, je dirais, ce qu'on voit chez Paul ici, dans l'ouverture de Philippiens, mais aussi dans beaucoup d'autres de ses écrits. Il est tourné vers Dieu, vers les chrétiens, vers les perdus, alors que lui est en prison. Je veux dire, s'il y a une place, il aurait pu avoir un apitoiement, puis commencer à se plaindre, puis à mettre le blâme ou tout ça, puis avec, surtout avec ceux qui voulaient lui donner encore plus de troubles. Il y avait l'occasion, là, mais c'est pas du tout ce qui l'anime. Pourquoi? Parce que justement, il comprenait les vérités sur son identité. Il se laissait pas définir par ces choses. Il savait que Dieu, c'est lui qui est au contrôle de sa vie, c'est lui qui est en train de faire cette œuvre qu'il avait commencé, qu'il est en train de faire, puis qu'il allait achever. Mais vous, tout était par rapport à Dieu. Donc, le premier contraste, c'est que notre identité, elle est reçue et non pas acquise. Notre identité nous pousse à vivre pour Dieu et pour autrui, non pas pour nous-mêmes. Le troisième contraste qu'on voit, c'est que notre identité chasse la peur de l'inconnu. Au lieu d'avoir peur, on est confiant. Regardez versets 12 à 14. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul qui devrait avoir peur de se demander comment ça va virer, c'est lui qui encourage les autres. Et je pense pas que c'est parce qu'il était sans peur, puis que tu sais, il était immunisé contre la peur, mais il n'avait pas fait. Il avait, lui qui fabriquait des tentes, il n'avait pas fabriqué sa tente dans le camping de la peur. Il était juste de passage. Puis, il faisait sa tente dans son identité avec le Seigneur. Et donc, la peur est chassée lorsque notre identité en Christ est solide. Et ici, c'est vraiment, on voit comment Paul parle comme un homme qui a l'assurance de qui il est. Il sait en qui il a cru. Parce que notre identité qui chasse la peur de l'inconnu, c'est ça que ça fait. L'Évangile, plus elle occupe de la place dans notre cœur, plus les circonstances, les personnes, les peurs, pis tout ça, vont s'en aller. Ça va ensemble, c'est directement proportionnel. C'est ce qu'on voit aussi dans la parole, avec par exemple, Ésaïe, chapitre 26, verset 3. « Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Écoutez aussi, verset 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Jésus qui nous dit qu'il nous laisse la paix. Puis un que j'aime tellement aussi, dans Romains, on l'a lu tantôt dans le bulletin. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On appartient à Dieu. On a été racheté par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque, comme ça, on a la certitude de notre appartenance au Seigneur, qu'on a la certitude qu'on est sauvé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On n'a rien à craindre. Et c'est pas qu'on n'a rien à craindre parce qu'on ne ressent pas la pression de la douleur, de l'abandon, de la souffrance, ou même de la peur qui peut arriver, le fait d'avoir perdu un emploi, d'être malade, d'avoir une relation qui est brisée, d'avoir quelqu'un qui nous tourne le dos au Seigneur. Toutes ces choses-là, c'est pas des minces affaires. C'est pas qu'on ignore ça et qu'on fait semblant que tout est beau et qu'on vit sur un petit nuage. Mais on a la ferme assurance que notre Père est souverain sur toutes ces choses, sur tous les aspects, sur tous les moments de notre vie. Et que même ceux autour de nous, dans sa grâce, il est capable d'agir dans leur vie. Puis que nous, il nous a équipés, il a pourvu pour tout ce qu'il nous a envoyé dans notre vie. Si ça nous arrive, c'est parce que Dieu sait qu'on en a besoin, puis il nous a déjà donné la grâce qu'on a besoin pour y faire face. Ça, c'est ce qui chasse la peur. Je suis un enfant de Dieu, je suis aimé, je suis accepté. Ce qui m'arrive, ce n'est pas la preuve que Dieu me déteste, c'est la preuve que Dieu m'aime. C'est ça qui chasse la peur, comprenez-vous? Quand on se laisse, quand on se met à être chancelant, c'est parce qu'on pense que ce qui nous arrive, ça veut dire qu'à quelque part, Dieu est plus disposé favorablement envers nous. Mais quand on est certain de notre identité, ces choses qui arrivent nous montrent le contraire. Oui, ça fait mal, lui, on ne comprend pas, mais c'est précisément Dieu qui fait ça pour ancrer notre confiance en lui. Amen. Et non pas dans notre chair, puis nos raisonnements, puis moi. Et je dirais un effet majeur, un effet collatéral de cette assurance, de cette sécurité dans la personne et l'œuvre de Dieu, mais va être visible dans nos relations avec les autres, comme on le voit dans les versets 15 à 18 avec le quatrième contraste. Notre identité arrête le jugement qu'on a sur les autres et sur nous-mêmes. Oh, celle-là, c'est un important. Regardez verset 15 à 18. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, ça c'est les tannants, ça c'est ceux qui nous empêchent de dormir, ça c'est ceux qui viennent nous chercher en pesant sur le piton sensible, OK? Ceux-là. Tandis que ceux-là, animés, verset 17, d'un esprit de dispute, hein, comme dans Jacques, annonce Christ dans des intentions qui ne sont pas pures avec la pensée de me susciter des afflictions dans mes liens. Ils sont vraiment pas fins, là. Il y a déjà de la misère, Paul, puis il veut rajouter à sa misère. Mais regardez ce qu'il dit. Qu'importe. Wow! De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas à moi annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Wow! Remarquez l'attitude de Paul ici par rapport à ceux qui n'ont pas une bonne attitude. OK, c'est clair, là? On s'entend, c'est pas des gens très recommandables. Mais l'attitude de Paul, elle est christique. Elle est désintéressée. Il pense pas à ce que lui, ça peut y faire. Il pense à ce que Dieu est en train de faire. Sa confiance n'est pas dans ce qui lui arrive, dans ce que ça lui fait, mais dans ce que Dieu est en train de faire, sa personne et son œuvre. Et pour nous, pour notre part, nos jugements, la dureté qu'on peut avoir envers les autres, et souvent aussi envers nous-mêmes, disons-le, souvent notre plus dure critique, c'est nous-mêmes. La dureté qu'on peut avoir envers les autres ou envers nous-mêmes, c'est dû à notre insécurité par rapport à la personne et à l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important notre identité. Quand on juge et qu'on commence à perdre les pédales dans ce domaine-là, c'est parce qu'on n'est pas sécure dans l'amour de Dieu. Moi, une des grandes révélations de ça, je l'ai vécu. Tu sais, on dit, Dieu nous a fait la grâce de souffrir pour lui. Je dirais 2022, il y a eu vraiment toutes sortes, ça a brassé toutes sortes de façons. Ça, souvent, je le prends comme illustration. Il y a eu des très belles choses extraordinaires, mais en même temps, ceux qui étaient là, vous savez que ça n'a pas toujours été du camping, mettons là. Mais des fois, c'était du camping à la pluie battante, puis il y a un trou dans la tente. Hein?
Camping sauvage.
Camping sauvage, oui, c'est ça. Des fois, c'était plus du camping sauvage que dans ta roulotte toute confortable. Ben, à un moment donné, dans une de ces situations-là, j'ai eu à répondre à quelqu'un par rapport à un problème réel qui était dans l'église, mais la personne avait une attitude condescendante et de condamnation. Puis ce que j'ai dit à cette personne, je comprends ce que tu dis, mais là, tu es centré sur la personne, tu n'es pas centré sur Dieu. Tu réponds à la personne, tu ne réponds pas à Dieu. Et c'est quoi le problème? Tu veux régler la situation. Tu cherches le contrôle parce que tu as peur. C'est Dieu qui est au contrôle. Donc, on n'a pas à avoir peur. Puis là, c'est là que c'est vrai. Là. Tu sais, on dit, oh, on a la foi, puis on chante, là, par la foi, nous marcherons. Là. Ben là, c'est vraiment le moment où est-ce que ça arrive pour de vrai. Là. Tu l'as-tu la foi? Tu penses-tu que Dieu est capable, mieux que toi, de parler à cette personne-là, de leur placer, de régler cette situation? C'est vraiment la question ici. Je la trouve où, ma sécurité, mon identité? Si je suis aimé, si ici c'est l'Église de Dieu, si Dieu c'est lui qui a commencé, puis c'est lui qui est en train, puis c'est lui qui va finir, est-ce qu'il l'a échappé, puis là, là, il dit, OK, excusez, je suis occupé en Thaïlande, à quelque part, puis là, ben là, arrangez-vous tout seul pour l'instant, parce que là, je suis débordé. Ça n'arrive pas, ça. Dieu n'est jamais débordé, puis on est comme la prunelle de son œil, donc on peut être sécure, solide là-dedans. C'est ça qui arrive quand on se met à juger, quand on se met à condamner, quand on perd les pédales, parce qu'on perd le focus de sur notre Dieu. Puis juste pour vous dire quelque chose là-dessus, une couple de petits commentaires là-dessus. Puis je pense que j'en ai déjà parlé, mais on peut pas changer les autres, puis on peut pas se repentir à la place de quelqu'un. Mais quand il arrive des affaires de même, il faut qu'on dise, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu montes à moi là-dedans? Parce que souvent, c'est quoi le piège dans lequel on tombe? Ben, si la personne pouvait se repentir, puis finalement régler la situation, tout irait bien. Oui, mais ça, c'est pas dans ton contrôle. T'es pas en train de changer la personne. Ah, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, puis on prie, puis des fois, il y a des choses. Mais la réalité, là, la dure réalité, là, crue, là, c'est qu'on est zéro capable, là, totalement incapable de changer le cœur de quelqu'un puis de l'amener à la repentance. Puis ça, ça veut dire qu'il faut qu'on dépende de Dieu. Puis qu'on dit, Dieu, c'est quoi que tu montes à moi là-dedans? Puis, une autre chose que je veux dire par rapport à ça, quand on est dans des temps comme ça où est-ce que notre dépendance est évidente puis elle nous est mise d'en face parce que là, ça tire de tous les bords, je dirais que c'est facile, on est disposé à dire, ben Dieu, je dépends de toi parce que c'est évident. On l'a d'en face, comme on dit. Mais savez-vous qu'en ce moment, là, où est-ce que les eaux sont plus paisibles, puis où est-ce que c'est plus facile, on a encore plus besoin? Parce que là, on a le piège d'être sur le pilote automatique. Là, c'est facile de dépendre de notre chair. C'est encore plus problématique en ce moment. Puis, on peut facilement s'appuyer sur le bras de la chair quand on est dans des moments où est-ce que on n'est pas poussé à l'extrême. Et donc, je dirais là-dessus, on doit laisser Dieu constamment. On doit constamment laisser Dieu nous interpeller. Avec ce qui nous arrive, dire, OK, Dieu, c'est quoi que tu es en train de faire là-dedans? Puis, je suis ton enfant, je t'appartiens, ça c'est réglé, mais comment tu es en train d'accomplir tes plans bienveillants dans ma vie? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre là-dedans? Et ça va vraiment changer. Si, au contraire, je suis tourné vers les autres, par mon amertume, par une attitude de jugement ou tout ça, je passe à côté ce que Dieu a pour moi. Puis là, ça ne veut pas dire que je chantais sur moi et que je me fiche des autres, mais je reconnais que le domaine où est-ce que Dieu me donne à travailler puis à changer, c'est celui de ma vie. Pour celui des autres, même époux, épouse, enfant, on ne peut pas les changer. Puis d'ailleurs, quand on essaye, ça fait juste pire. Et là, je veux qu'on regarde avant de terminer. Comment tout ça est un choix quotidien. Paul nous dit au verset 19, « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Cette déclaration de « Christ est ma vie », il faut qu'à tous les jours, on choisisse de dire « c'est Christ qui est ma vie, c'est pas ce que je fais qui est ma vie, c'est pas ce que je suis moi-même dans ma personnalité, dans mon tempérament, c'est Christ qui est ma vie. C'est lui qui ne change jamais, qui est toujours bon, qui est suffisant. C'est lui ma vie. C'est lui qui me définit. » Je dirais là-dessus, écoutez-moi bien, là, juste en terminant, une petite pensée bien simple. Là. On a parlé d'identité, ce qui nous définit. Voulez-vous une pensée bien simple pour terminer? Vous voulez savoir ce qui vous définit? Vous voulez savoir si vous êtes défini par quelque chose, par une chose ou par l'autre? On est défini par ce qu'on écoute, et par où on regarde, et par à qui on s'attend. Si les gens, là, ce qu'ils me disent, puis là, je les vois, puis je veux être comme eux autres, puis je m'attends à eux autres, c'est ce qui va me définir. Ça peut être des gens du monde, ça peut être des gens de ma famille, ça peut être des gens d'église. On dépend de ceux à qui on regarde, qu'on écoute, puis à qui on s'attend. Donc, être défini par Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, c'est toi que j'ai besoin d'entendre. C'est toi qui me dis ce que je suis, ce que tu as fait de moi. C'est pour ça qu'on lit la Bible le matin. Pas pour cocher la liste et dire « Ah, ben là, j'ai lu ma Bible, je suis un bon chrétien. » Non, parce qu'on a besoin d'entendre celui qui nous définit, qui nous dit c'est quoi notre vie, qui met la lumière de lui sur notre vie, qui nous ramène constamment à ça. C'est sur lui que nos yeux se portent. On l'écoute avec la parole, mais aussi il se révèle à nous dans la parole. « Ah, on voit Dieu. » Puis là, c'est ce que ça fait quand que la parole habite en nous dans toute sa richesse. Ça fait complètement toute une nouvelle dynamique par rapport à ce qui nous arrive. Parce que ce qu'on écoute, c'est à quoi on s'attend. C'est plus défini par Pierre, Jean-Jacques ou par moi-même, mais par Dieu lui-même. C'est ça notre identité, c'est ça le secret. Puis c'est presque ma conclusion, mais c'est pas encore tout à fait ma conclusion, mais c'est pas mal important. Donc je vous pose la question, qui suis-je? Qui suis-je? Ben, la personne qu'on écoute, c'est elle qui va me dire ce que je suis. Moi, je peux m'écouter moi-même, je peux écouter les autres. Mais mon message, c'est simple. Écoutez ce que Dieu a à vous dire pour dire qui suis-je. Pensez-y, c'est qui la meilleure personne pour placer, pour définir qui que t'es? Toi, les autres, non, c'est Dieu. Donc, la simple question qui suis-je, là, il y a une personne pour y répondre. C'est Dieu. Puis Dieu, c'est pas juste le meilleur des philosophes. Dieu nous a définis non seulement par ce qu'il dit, mais par ce qu'il a fait. La croix est une déclaration. Voici ce que j'ai fait de ton péché. Voici ce que j'ai fait de ton passé. Voici, avec mon ensevelissement, ma résurrection, ce que je fais de toi maintenant, tu es une nouvelle création. Ça, c'est ce que Dieu a à dire sur toi si tu es un enfant de Dieu. Puis si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est pour ça que tu es esclave, parce que tu es pris à te laisser devenir par ce que tu es, par ce que tu fais, par ce que les autres te disent, puis tu n'as rien au-delà. Il faut que tu passes par la croix. La croix, c'est la déclaration de l'amour de Dieu, du fait que Christ est mort pour que tu puisses vivre. La croix, c'est la déclaration de la fin de l'esclavage et de la réelle liberté. C'est ce que Christ a dit, n'est-ce pas? Que ceux qui croient, ils vont être réellement libres. Et donc, vous savez, de naissance, si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes en Adam. Vous avez l'identité que toute l'humanité a depuis Éden, mort dans vos offenses et vos péchés parce que vous êtes en Adam. Vous devez naître de nouveau. Vous devez passer de Adam à Jésus-Christ. Vous devez passer de la sphère de la mort à la sphère de la vie. Du royaume dans lequel on est tous nés de naissance, le royaume de Satan. puis passer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça, c'est par la croix de Christ. Donc, la croix, tout est accompli. L'offre est là. L'œuvre est parfaite. Le sauveur est parfait. Il est parfait pour sauver. Maintenant, quiconque s'approche de lui par la foi, accepte-le. Tu es un enfant de Dieu ici? Ben, tout est accompli. On va le voir après-midi. Une série hein, qu'on fait ensemble, tout est accompli. Vive à la lumière de la croix. Ben justement, vie. Vie. Accepte la croix, c'est la voie de la vie. Tout est là, tout est accompli. Tu n'as rien à rajouter. Tu as simplement à y croire, à vivre à cette lumière. Puis ça va absolument tout changer, comme on l'a vu dans le message. Et que Dieu puisse faire porter du fruit à ses vérités ce matin. Merci Seigneur pour le fait que ta parole elle n'est pas prêchée en vain, que c'est ta parole, Seigneur. Et merci que c'est bien malgré l'instrument. C'est pas l'instrument l'important. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Parce que tu sauves même à travers les personnes les plus malhabiles. Et Seigneur, tu guides ton peuple, même, Seigneur, avec des gens tout simples, sans une grande intelligence. Merci que tu l'as voulu ainsi pour que la gloire revienne à toi et à toi seul. Seigneur, on veut répondre, Seigneur, au fait que tu nous as rappelé aujourd'hui de vivre à la lumière de ce que tu as fait de nous autres. Vive notre nouvelle identité. Et s'il y en a qui sont encore dans la mauvaise identité, qui sont encore dans la mort, qui sont encore en Adam, oh Seigneur, visite leur cœur. Convainc-les de péché, de justice et de jugement et qu'ils te reçoivent comme leur sauveur, qu'ils mettent leur foi dans l'œuvre et la personne de Christ. On te prie au nom de Jésus. Amen.